À l'écoute d'RFI, il est 8h30 à Niamey et à Abuja.
RFI Matin.
Le journal Afrique avec Vincent Dublange à la une. Deux sommets pour un symbole en Afrique de l'Ouest.
Symbole de la rupture entre les juntes sahéliennes et la CDAO. L'organisation sous-régionale se réunit jusqu'à dimanche à Abuja quand les putschistes maliens, burkinabés, nigériens sont attendus aujourd'hui et demain à Niamey. L'inquiétude dans ce journal de Reporters sans frontières pour trois journalistes burkinabés qui n'ont pas donné de nouvelles depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines. Bientôt, une déclaration de politique générale d'Ousmane Sonko au Sénégal. En tout cas, des députés sénégalais ont déposé une proposition en ce sens. Le journal des sports dans 10 minutes. Fin du rêve olympique pour les basketteurs ivoiriens. Les Camerounais, eux, peuvent encore y croire. Et puis, on connaît aussi les groupes des qualifications à la prochaine CAN de foot. Alors qu'un sommet de la CDAO se tient dimanche à Abuja, les ministres des Affaires étrangères de l'organisation sont d'ailleurs déjà dans la capitale fédérale nigériane pour commencer les discussions dès aujourd'hui. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se retrouvent, eux, à Niamey, premier sommet des chefs d'État de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ce sera demain, samedi. Les trois pays ont fait part de leur volonté de quitter la CDAO pour créer cette nouvelle organisation. Les chefs des juntes burkinabées et maliennes sont attendus dès aujourd'hui dans la capitale nigérienne, Polycarpe Samba.
À Niamey, le mot d'ordre est passé. Pour ce premier sommet de l'AES annoncé comme un événement historique, les populations ont été invitées à sortir massivement afin d'accueillir chaleureusement les leaders révolutionnaires qui œuvrent pour la sécurité et le développement de la région. Niamey entend en effet marquer le coup et donner une impulsion à cette jeune organisation dont les chefs respectifs sont arrivés au pouvoir entre 2020 et 2023 par des coups d'État. Ce sera la première rencontre du genre entre les trois chefs d'État, même si plusieurs rencontres bilatérales ont déjà eu lieu. Tous ont depuis tourné le dos à la France, ex-puissance colonisatrice, et à la CDAO, qu'ils accusent d'être inféodés à Paris et de ne pas assez les soutenir dans leur bataille contre les djihadistes. Malgré cette prise de distance, plusieurs chefs d'État de la région continuent d'appeler au dialogue entre les deux blocs. C'est notamment le cas de Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, qui, à peine installé au pouvoir à Dakar, avait fin mai jugé possible une réconciliation entre la CDAO et l'AES.
Polycarpe Samba du service Afrique de Radio France Internationale. Et alors que le président de transition du Mali est attendu aujourd'hui à Niamey, l'armée malienne est accusée de nouvelles exactions. Une soixantaine de corps retrouvés près d'Abeï Bara, c'est dans la région de Kidal, près de la frontière avec l'Algérie. Selon les sources locales jointes par RFI, il s'agit presque exclusivement de civils. Ils ont été tués par l'armée malienne et ses supplétifs ex-Wagner, désormais incorporé à l'African Corps, repris en main par les autorités russes. Au Burkina Faso, on est toujours sans nouvelles de trois journalistes. Khalifara Séré, chroniqueur sur la chaîne BF1, qui a disparu le 19 juin dernier, au lendemain d'une audition à la police judiciaire. Adama Bayala, également chroniqueur de BF1, qui n'a plus donné signe de vie, lui, depuis le 28 juin. Et Serge Houlon, directeur de publication de L'Événement, enlevé le 24 juin par des hommes qui se revendiquaient de l'ANR, l'Agence nationale burkinabé des renseignements. L'organisation Reporters sans frontières fait aujourd'hui part de son inquiétude et interpelle les autorités de transition burkinabé. Écoutez Sadibou Maron, directeur Afrique de RSF.
Leur famille n'a aucune nouvelle, leurs proches, leurs confrères aussi. Et c'est très extrêmement inquiétant dans le contexte actuel au Burkina que trois journalistes disparaissent en 10 jours sans provoquer une seule réaction des autorités au Burkina est extrêmement révoltant face à ce silence, à ces tonitruants et aux stratégies d'enlèvement qu'on a déjà vues dans ce pays pour faire taire des voix critiques. Nous avons toutes les raisons de penser que ces journalistes, ces chroniqueurs ont été la cible d'enlèvement par des membres des services de renseignement. Il revient donc aux autorités en place de sortir de leur mutisme et de mettre tout en œuvre pour faire toute la lumière sur le sort de ces trois journalistes. Ces pratiques d'enlèvement de journalistes qu'on a vues récemment, après l'enlèvement d'activistes et de défenseurs des droits humains, instaurent un climat de peur et d'autocensure qui mettent en péril la liberté de la presse dans un pays comme Burkina Faso, qu'il avait érigé comme pilier pendant très longtemps.
Un propos recueilli par David Baché. Une figure de la presse mauritanienne vient de disparaître. Mohamed Fall Ould Oumer est décédé hier. Le journaliste avait dirigé pendant près de 20 ans l'hebdomadaire La Tribune, réputé pour ses éditoriaux. En 2019, il avait été nommé directeur de l'agence de presse officielle, l'AMI, poste qu'il avait quitté en fin d'année dernière pour partir à la retraite. Mohamed Fall Ould Oumer avait ces dernières semaines intégré l'Observatoire national des élections pour suivre la présidentielle du 29 juin en Mauritanie. Une présidentielle où l'on connaît le vainqueur officiel, Mohamed Ould Razouani. Le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs hier. Le deuxième mandat du président Razouani débutera le 2 août. C'est au large des côtes de la Mauritanie que l'embarcation a chaviré. 89 migrants au moins sont décédés. C'était lundi, mais on l'a appris hier. Les gardes-côtes mauritaniens ont retrouvé le bateau et les corps sans vie à 4 km au large de la ville de Ndiago. Les exilés étaient partis du Sénégal. Le Sénégal est peut-être la fin du bras de fer entre Ousmane Sonko et l'Assemblée nationale. Après le refus du Premier ministre sénégalais de venir faire sa déclaration de politique générale à cause d'un vice réglementaire, plusieurs députés ont déposé un projet de loi pour rétablir les prérogatives du Premier ministre dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Première étape pour combler donc ce vide juridique sur lequel le Premier ministre s'appuie pour ne pas venir faire sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. À Dakar, les explications de Léa Lisa Westerhoff.
Une députée du Parti démocratique sénégalais hier et un autre parlementaire du groupe Wallou lundi, deux élus au moins ont déposé un projet de loi qui vise à rétablir les prérogatives du Premier ministre au sein du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Un manquement dans le règlement a été constaté, justifie Nafissatou Diallo du PDS. En tant que législateur, c'est donc normal de le corriger, poursuit celle qui a déposé son projet de loi mercredi. L'objectif, bien sûr, c'est de sortir du blocage, faire en sorte que le Premier ministre puisse faire sa déclaration de politique générale comme l'exige la Constitution. Mais d'ici là, plusieurs étapes restent à franchir, et d'abord celle du bureau de l'Assemblée nationale. Il doit valider le principe de l'examen de ce projet de loi, mais pour cela il faut que le bureau du Parlement se réunisse. Or l'Assemblée nationale est en vacances parlementaires, c'est donc au président du Parlement de convoquer le bureau, une session extraordinaire. Ça ne devrait pas poser de problème, affirme l'un de ses conseillers, mais aucune date n'a encore été annoncée. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Le Sénégal où les Françaises et Français qui y vivent vont voter dimanche, second tour des législatives, 9e circonscription des Françaises et Français de l'étranger qui couvre le Maghreb, une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, 155 000 électeurs et électrices appelés aux urnes. Ils vont devoir départager Karim Ben Cher, qui est le député sortant de gauche du Nouveau Front Populaire. Il a recueilli 51,6% des suffrages au premier tour dimanche dernier. Mais la participation était trop faible pour qu'il soit élu. Face à lui, Samira Djouadi de la coalition présidentielle Ensemble, qui a totalisé 15,7% des voix dimanche dernier. RFI vous propose d'écouter les professions de foi des deux candidats. On commence par celle de Karim Ben Cher.
Quand on parle des Français de l'étranger, généralement on parle de questions budgétaires et de démantèlement du service public. Les Français de l'étranger, moi je le dis toujours, sont à l'avant-garde quelque part du démantèlement du service public. Sur les 30 dernières années, les budgets associés ont été divisés par deux, les ressources humaines associées ont été divisées par deux. En tout et pour tout, si vous faites l'addition de tout ce qui est minima sociaux versés aux Français de l'étranger, on est sur 15 millions d'euros pour 2,5 millions de Français établis à l'étranger. Vous savez, la couverture sociale pour les Français de l'étranger, elle peut se faire à travers la Caisse des Français de l'étranger, qui est une caisse de sécurité sociale. Sauf qu'aujourd'hui, cette caisse de sécurité sociale, on lui donne une mission de service public, c'est-à-dire prendre l'ensemble des Français qui souhaitent être couverts. Par contre, elle n'est pas du tout aidée par l'État. Ça lui coûte à peu près 25 millions d'euros par an et reçoit en contrepartie par l'État 380 000 euros. Donc là, il y a un déséquilibre complet de cette caisse et ça serait bien que nous puissions penser à de nouveaux modes de financement qui permettent à minima de compenser sa mission de service public.
Et en ballotage avec Karim Ben Cher de la gauche, Samira Djouadi de la majorité présidentielle Ensemble, dans la 9e circonscription donc des Françaises et Français de l'étranger. On écoute son programme.
Quand on vient dans un pays étranger, on a envie que la scolarité de nos enfants soit digne de celle qu'on peut avoir dans l'Hexagone. Il faut savoir, hein, et souvent dans l'Hexagone, on n'en a pas conscience, les études à l'étranger, même dans les écoles françaises, elles sont payantes et elles coûtent parfois très, très, très cher. Je n'irai pas dans de la démagogie en disant que je cherche la gratuité. La gratuité est quasiment impossible. Mais par contre, qu'on puisse obtenir beaucoup plus de bourses qui vont permettre aussi d'atténuer les frais de scolarité pour les familles françaises. Il y a un travail à établir avec la personne qui sera à la tête du ministère de l'Éducation nationale pour flécher des budgets vers cet enseignement dans les écoles françaises. On accepte d'envoyer des professeurs, mais on ne va pas jusqu'à réfléchir à un budget pour que cette égalité existe entre les écoles françaises à l'étranger et les écoles dans l'Hexagone. Donc là, il y a un vrai sujet, une vraie préoccupation et inquiétude.
Voilà, propos des deux candidats dans cette 9e circonscription des Françaises et Français de l'étranger pour ces législatives, recueillie par Guillaume Fabry. Des experts de l'ONU alertent sur l'augmentation alarmante de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les experts mandatés par le Conseil des droits humains de l'ONU qui s'inquiètent également de la fermeture des bases de la MONUSCO dans le pays. Au Soudan, où l'on va terminer ce journal, les forces de soutien rapide du général Hemeti continuent leur progression au sud de Khartoum, dans l'état du Sennar. Nous sommes là le long du Nil bleu qui descend des hauts plateaux éthiopiens. Les paramilitaires FSR ont affiché hier leur victoire à Sinja, l'un des deux chefs-lieux de l'état de Sennar. Face aux exactions, les civils fuient en masse. L'ONU parle de près de 140 000 personnes. Plusieurs dizaines ont péri en traversant le Nil bleu. Jusqu'ici, l'état de Sennar était relativement épargné par la guerre qui oppose depuis avril 2023 l'armée régulière aux paramilitaires. Ouda Ibrahim, il s'agit d'un carrefour stratégique.
L'état de Sennar jouit d'une position géographique excellente. Il est situé sur un carrefour de lignes liant plusieurs autres états au Port-Soudan, situé à 200 km de Sinja, devenue capitale administrative provisoire au Soudan. En cherchant à dominer cet état, les FSR pourraient couper les chemins d'aide et de fournitures militaires destinés à l'armée. Plusieurs observateurs considèrent par ailleurs que si les FSR prennent le pont stratégique de Douba, où des combats ont lieu actuellement, cela leur permettrait d'encercler la ville de Gadarif, située dans un état relativement calme. Elles auront également, selon un expert militaire parlant à l'AFP sous couvert d'anonymat, une ligne ouverte vers la frontière éthiopienne, ce qui pourrait leur donner de nouvelles voies d'approvisionnement. Enfin, l'état de Sennar est également à la frontière avec le Soudan du Sud, pays qui aurait fourni, selon Khartoum, le plus grand nombre de mercenaires au FSR. Ces forces annoncent avoir pris le contrôle de la zone stratégique de Miram, au Kordofan de l'Ouest, à 60 km de la frontière avec le Soudan du Sud.
Ouda Ibrahim, et c'est ainsi que se termine cette édition. C'est à vous, Marion Cazanov, pour la fin des RFI Matin.
Merci, Vincent Dublange. Il est 9h42 à Paris. Dans quelques minutes, le reportage Afrique. On sera à la frontière entre le Rwanda et la RDC. On parlera des difficultés économiques dans une ville à la frontière entre le Rwanda et la RDC. On passe d'abord au sport avec Victor Missistrano. Et d'abord le basket, Victor, à la fin du rêve olympique de la Côte d'Ivoire qui n'ira pas aux Jeux de Paris.
Les éléphants quittent le tournoi de qualification de Porto Rico sans ticket, mais avec beaucoup de regrets. Après s'être inclinés de peu contre la Lituanie, les Ivoiriens ont cédé hier soir contre le Mexique 92-81. Ils menaient pourtant à l'entame du quatrième et dernier quart-temps. L'ailier Lionel Quadio regrette les petites erreurs qui ont coûté cher à son équipe qui n'a pas démérité.
La Lituanie, le Mexique sont de très bonnes équipes, mais il nous a manqué quelques détails, quelques lancers francs, quelques trucs en gros. On a perdu les deux matchs sur la même chose. Les leçons que nous pouvons tirer de ce tournoi, c'est que d'abord, il faut rester toujours ensemble, peu importe ce qui arrive. Il faut qu'on travaille plus le collectif, les finitions, les lancers francs, les tirs. Il faut qu'on retravaille tout en fait parce qu'on a l'Afro Basket 2025. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. On va bosser dur dans nos différents clubs et revenir à la préparation pour travailler dur ensemble pour aller chercher le trophée.
Propos recueillis par Molamine Sissavané.
De son côté, le Cameroun continue d'y croire.
Oui, et même plus que jamais, les Camerounais sont à deux matchs d'un exploit retentissant. Ils se sont qualifiés hier pour la demi-finale de leur tournoi grâce à une victoire 77-74 contre le Brésil. Rendez-vous demain 16h, temps universel, face à la Lettonie qui jouera à domicile. Le Cameroun est la dernière équipe africaine qui peut espérer rejoindre le Soudan du Sud au JO dans le tableau masculin, puisque c'est terminé pour l'Égypte et l'Angola, doublement battus dans leurs tournois de qualification respectifs.
En football, les sélections se tournent vers la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui débutera fin 2025 au Maroc. Le tirage au sort des groupes de qualification a eu lieu hier à Johannesburg, en Afrique du Sud.
Un tirage clément pour la Côte d'Ivoire, tenante du titre, qui affrontera la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Bon tirage aussi pour le Cameroun qui sera opposé à la Namibie, au Kenya et au Zimbabwe. Le Maroc, futur pays hôte, jouera contre le Gabon notamment la Centrafrique et le Lesotho. Autres favoris, le Sénégal tombe dans le groupe du Burkina Faso, du Malawi et du Burundi. De son côté, la RDC hérite de la Guinée, de la Tanzanie et de l'Éthiopie. Le tableau complet est à retrouver sur RFI.fr. Cette CAN, Moussa Niakate espère sans doute la disputer avec les Lions de la Teranga. L'Olympique lyonnais a officialisé hier l'arrivée du défenseur sénégalais en provenance de Nottingham Forest pour la somme de 31 millions d'euros.
Et on parle aussi d'athlétisme dans ce journal des sports. Dernière ligne droite, Victor, avant les Jeux Olympiques.
Hier s'est tenu le meeting de Sotteville-lès-Rouen dans le nord-ouest de la France. Le champion du monde Hugues Fabrice Zango a remporté le concours du triple saut avec une marque à 17,38 m. Le Burkinabé devra aller beaucoup plus loin s'il veut espérer remporter l'or à Paris. Sur le 200 mètres, l'Ivoirien Chekna Traoré visera la médaille. Il s'est imposé en 20 secondes 41, loin de son meilleur temps de la saison, 19,93 au championnat universitaire américain pour celui qui vit aux États-Unis depuis l'âge de 5 ans. Mais ce chrono est logique selon lui.
C'était ma première course depuis un mois environ. Donc il y a un peu de rouille, mais on fait avec. L'objectif, c'était de se lancer vers les Jeux Olympiques, de m'habituer au climat et à l'atmosphère. Après, je ne suis pas vraiment satisfait de mon temps. Je suis capable de faire beaucoup mieux. Mais allez, pour la première course depuis un mois, on prend.
Chekna Traoré au micro de Baptiste Leduc. En cyclisme, Binyam Girmay n'est pas passé loin d'une deuxième victoire sur le Tour de France après celle de lundi. L'Érythréen a terminé hier deuxième derrière le Néerlandais Dylan Groenewegen. Il garde le maillot vert de meilleur sprinter. Enfin, en tennis, ça ne vous a sans doute pas échappé. Marion Onsjaber poursuit sa route à Wimbledon. La Tunisienne, double finaliste en titre, s'est qualifiée pour le troisième tour. Elle a éliminé l'Américaine Robin Montgomery. Le score, 6-1, 7-5.
Et ouais, ce qui se passe en tennis ne m'échappe jamais. Onsjaber, d'ailleurs, qui affrontera Elina Svitolina. Merci, Victor Missistrano, pour le journal des sports.
RFI à Kigali, 91.9 FM.
On entame aujourd'hui une série de reportages au Rwanda avant les élections présidentielles et législatives du 15 juillet. Paul Kagame, au pouvoir depuis 24 ans, est candidat à sa réélection. Le Rwanda, dont les relations sont au plus mal avec la RDC voisine, les tensions diplomatiques se font sentir, notamment à Rubavu, ville rwandaise frontalière de Goma. Depuis deux ans, la frontière entre les deux villes, l'une des plus empruntées du continent, ferme dès le milieu de l'après-midi et les habitants appellent à un retour à la normale. Reportage sur place de Lucie Mouillot.
Au cœur de la rue marchande de Rubavu, Goret Wineza organise les grands sacs de marchandises installés à l'entrée de sa boutique.
Ici, je vends des graines de maïs, du sorgho, du soja et des haricots.
En cette fin de matinée, les clients congolais se dépêchent pour déjà retourner à la petite barrière post-frontalière entre Rubavu et Goma. Avant 2020, 50 000 passages journaliers y étaient enregistrés. Mais depuis deux ans et la fermeture à 15 heures de la frontière en raison des tensions entre le Rwanda et la RDC, la rue marchande à quelques centaines de mètres de là tourne au ralenti.
On avait des clients même au dépôt, il y avait beaucoup de mouvements. Au marché, en combinant les vendeurs, on pouvait vendre à nous tous une demi-tonne de sacs par jour. Maintenant, même vendre 100 kilos, c'est difficile.
Un commerce transfrontalier indispensable pour l'économie de la ville. Trois étals plus loin, Moussa Babonamposé ouvre les portes de son entrepôt. Président d'une coopérative, l'homme d'affaires doit souvent aider les commerçants bloqués la nuit de l'autre côté de la frontière. Les limites d'horaire compliquent les échanges et ont réduit ses revenus de près de 30%.
Nous voulons la paix entre les deux pays, le Rwanda et le Congo. Que Dieu fasse que nos dirigeants s'entendent et que les commerçants profitent du retour au calme et que cela redevienne comme avant.
Une volonté pour les habitants, le retour de la fermeture à 18h de la frontière. Dans les écoles de la ville, l'impact économique se fait aussi ressentir. Jocelyne Mourekatete, directrice d'un établissement primaire de Rubavu.
La grande majorité des parents travaillent au Congo. Donc ça a été un peu difficile financièrement. Avant, il y avait des parents qui arrivaient même à payer tout un trimestre ou bien toute une année. Mais aujourd'hui, ça demande de les forcer, appeler toujours. Vraiment, on souhaitait beaucoup que la situation revienne comme avant. Ça peut vraiment beaucoup nous aider.
La fermeture quotidienne anticipée de la frontière a chamboulé depuis 2 ans la fréquentation de l'école. Élèves et professeurs congolais ont pour beaucoup quitté l'établissement. D'autres ont dû déménager au Rwanda pour continuer à suivre leur classe. Lucie Mouillot, de retour de Rubavu, RFI.
Le reportage Afrique à retrouver et à réécouter sur notre site rfi.fr et sur l'application Pure Radio.
RFI à Freetown, 89.9 FM. Libreville, 104 FM.
7h49 en temps universel. Au Gabon, la situation économique du pays est alarmante selon un récent rapport du FMI, le Fonds monétaire international. Le rapport a étudié l'évolution des performances économiques du Gabon des années 70, 80 jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il en ressort notamment, c'est que la pauvreté et le chômage sont en forte hausse. À Libreville, Yves-Laurent Goma.
Selon le rapport, le Gabon reste un pays à revenus intermédiaires, mais ses populations s'enfoncent dans la pauvreté, résume Gomez Agou, représentant du FMI.
On s'est rendu compte qu'il y a eu un recul du niveau de revenus. Pour vous donner un exemple, au Gabon, si un habitant en moyenne gagnait 100 000 francs CFA en 1990, aujourd'hui, ce même habitant gagne à peine 80 000 francs CFA. Ce recul du revenu s'est accompagné de 2 éléments importants au Gabon. C'était l'accroissement du chômage et l'accroissement de la pauvreté. Le chômage aujourd'hui est autour de 35 à 40% au sein de la population en âge de travailler. Et la pauvreté, c'est un Gabonais sur 3 qui est pauvre.
Autre indicateur négatif, le taux d'endettement qui dépasse le seuil de 70% du PIB, fixé par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC.
Nous avons donc regardé la situation de la dette du Gabon qui aujourd'hui se situe en 2023 à 70,5% du PIB. Donc c'est un taux d'endettement très important. Parce que si le rythme d'endettement avant le 30 août 2023 se poursuit dans les années à venir, la dette du Gabon pourrait atteindre dans 4 ans ou 5 ans 100% du PIB.
Pour corriger cette situation, le FMI formule plusieurs recommandations.
Le Gabon doit bien gérer ce dont il dispose. Ce dont le Gabon dispose, ce sont des ressources pétrolières et minières qui sont importantes, sur lesquelles malheureusement, pendant des décennies, il n'y a pas eu de transparence. C'est l'heure de rétablir toute la transparence sur la gestion de ces ressources-là. Il faut publier par exemple les contrats de pétrole et les contrats miniers. Il faut s'assurer qu'il y a un audit du secteur, collecter l'impôt et les droits de douane et réduire le rythme de dépenses de l'État.
Lors d'une cérémonie conjointe avec le FMI, le ministre de l'économie, Maïs Mouissi, a fourni quelques explications.
Nous continuons notre stratégie avec la volonté de faire en sorte que notre pays maîtrise ses déficits, maîtrise l'inflation et maîtrise son endettement. Ce que le FMI demande, c'est d'être déjà plus transparent sur les recettes pétrolières et minières. C'est la raison pour laquelle il y a toute une réflexion sur le volet contractuel, voir comment nous pouvons rendre public, y compris les contrats liés à ce domaine.
Le FMI félicite le gouvernement de transition pour avoir volontairement mis à sa disposition, en toute transparence, la documentation qui a permis d'élaborer ce rapport. Il souhaite que Libreville s'active à appliquer ses recommandations pour améliorer durablement les performances économiques du pays. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
La chronique Afrique Économie à retrouver aussi sur notre site RFI.fr. (Musique) 9h53 à Paris, 8h53 à Cotonou. On se quitte avec le choix musical de RFI.
Le crocodile, j'ai les crochets, les écailles, wow. Là-bas, il m'appelle le guépard. Ça part vite, je fais que de remplir le Paypal. Je me trouve un peu trop fêtard. En ce moment, j'ai toujours l'esprit en pétard. J'ai toujours l'esprit en pagaille. Avec mes démons, en ce moment, je fais la bataille.
Théodore, D-O-R-T à la fin. C'est le nom du rappeur que vous nous présentez aujourd'hui. Sophie Torlotan, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Théodore a 21 ans et vient de sortir un premier album intitulé Imad. Pour autant, ce n'est pas un inconnu.
Et effectivement, cela fait 12 ans déjà que le jeune homme nourrit des envies artistiques et a créé une chaîne YouTube où il a publié des vidéos humoristiques parodiques sur le rap. Des vidéos qu'il a effacées au début de cette année pour laisser place à la musique tout court. Il raconte d'ailleurs la genèse de sa vocation dans un film intitulé « Maintenant, vous savez », mis en ligne le 17 mars dernier, donc sur sa chaîne, suivi par près de 3 millions d'abonnés.
On a commencé très vite à filmer nos parties de jeux vidéo, carrément même avant que ça se publie sur YouTube. Et mon père m'a inscrit au piano. Et puis il m'a offert un clavier. Et donc, je commençais à faire de la musique. Il y avait déjà cette volonté de faire de la musique et de raconter des histoires en musique. Et j'ai deux albums que j'ai fait respectivement à 7 et 9 ans, je crois.
Alors, dans cette vidéo, hein, Théodore parle de tous ceux qui l'entourent, son frère notamment, avec qui il a commencé à faire ses vidéos, tous les musiciens qui l'ont accompagné. Et puis, il parle de sa famille au Bénin, notamment de sa grand-mère, une figure importante de sa galaxie familiale, qui apparaît d'ailleurs sur un des titres de cet album, le titre « Heureusement ».
Imad, mon grand, comment vas-tu? Je viens prendre de tes nouvelles. J'ai pu savoir que tu es en train de vouloir ouvrir une nouvelle page dans la réalisation de tes rêves. Alors, où en es-tu avec cet album?
J'ai négocié le meilleur deal. Je veux faire le meilleur disque. J'ai rencontré la meilleure fille. Je veux lui dire les meilleures disquettes. J'essaie de moins être distrait. J'essaye de moins être distant. Je vois plus trop la famille, mais j'essaie de les appeler souvent.
Et Sophie, c'est justement un voyage à Cotonou qui a orienté la tonalité musicale de ce disque.
Oui, un retour aux sources en 2022 qui d'ailleurs donne le titre de ce premier album de 15 titres, Imad. Puisque Imad, c'est le deuxième prénom de ce jeune homme métis et ça signifie force, pilier, lumière. Alors, en revenant de Cotonou, Théodore a eu envie de sonorité venue d'Afrique. C'est ce qu'il raconte toujours dans la vidéo. Maintenant, vous savez.
En rentrant en France, j'ai quand même l'envie de retranscrire ce que j'ai vécu, ce qui était très intense pendant ce voyage au Bénin. Et je découvre Asake. Et Asake lui fait une certaine musique, un dérivé de l'afrobeat, l'amapiano. En fait, l'amapiano, c'est un style qui a été créé en Afrique du Sud. C'est ultra créatif. J'ai l'impression qu'il y a un monde à explorer. Et pendant un an, j'écoute que ça.
J'hallucine, baby, j'hallucine, baby. Sois les signes, baby, sois les signes, baby.
Voilà, l'amapiano et l'afrobeat irriguent ainsi les 15 titres de ce premier album généreux de Théodore.
Imad, le premier album de Théodore. Il sera en concert le 13 juillet à Toulouse, dans le sud de la France, avant une grande date en novembre, salle Playel, et une tournée en 2025 déjà dans les Zéniths. Merci Sophie Torlotin pour le choix musical. On se quitte avec le titre Irbin Nate.
On l'a fait, on l'a fait. Je veux voir les deux doigts en V. Y'a tout le monde qui dit on va le faire, mais quand on dit on va le faire, nous on va le faire en vrai. Faut qu'on se capte avec mes anges. J'suis en retard, j'roule à 200. Eux ils me parlent dans mes songes. Moi j'dis pareil dans mes sons. C'est écrit dans le grimoire. Au final, il faut croire que j'y ai cru moi. Au final, j'suis rien d'autre que d'être moi. J'crois en Dieu, j'suis qu'un putain d'être humain. J'ai ramé, j'm'en rappelle. Ça fait long, faut qu'on s'appelle. T'es trop boulet sur le capable. Il faut croire qu'on est capable. J'ai du mal à m'élancer. Il me faut mon flamme kérosène. J'ai mon moteur.
En musique avec Théodore que se referme RFI Matin. Merci à Jean-Pierre Pellan qui était à la réalisation. Je vous laisse en bonne compagnie avec Juan Gomez. Bonjour Juan.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
Dans une dizaine de minutes, appel sur l'actualité. Quel est le programme?
Eh bien, on va commencer comme tous les matins avec les questions sur l'actualité et les réponses évidemment de la rédaction de RFI. Ce matin, on nous interpelle par exemple sur l'expulsion vers Bamako d'un Malien qui résidait en France depuis 20 ans. Des questions également sur l'équipe de France de football, incapable de marquer des buts dans le jeu. Voilà un aperçu de l'émission. Marion, bonne journée. Et dans 1 minute 30, le journal reste avec nous.
Priorité santé. Caroline Paré vous accueille tous les jours et reçoit des spécialistes à votre écoute. Aujourd'hui...
Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire et c'est à Abidjan que nous allons à la rencontre de garçons, de jeunes activistes impliqués dans la communauté. Ensemble, ils s'engagent, ils font bouger les choses pour la promotion de la santé et pour la défense des droits des femmes.
Priorité santé
avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
C'est le métal le plus populaire, mais produire une tonne d'acier émet 2 tonnes de CO2. Nous vous emmenons en Suède, au-delà du cercle polaire, où se dessine l'avenir avec la production de l'acier vert.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI. Ce dimanche, sur RFI, idée, Pierre-Édouard Deldic.
En pleine crise politique, nous allons cette fois parler des jours heureux qu'a connu la France ces 3 derniers siècles avec l'historien Jean Garrigue.
J'ai choisi d'aller plutôt du côté lumineux de notre histoire et montrer à quel point à certains moments nous avons su rêver ensemble et donc célébrer ensemble ce rêve d'avenir.
Idée proposée par Pierre-Édouard Deldic tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.